Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un plaisir de pouvoir continuer cette étude avec vous sur le livre des rois, ou les livres des rois. Voilà, comme Philippe l'a rappelé tout à l'heure, on a bien deux livres qui s'appellent les livres des rois dans la parole, mais en réalité, on l'avait dit dès l'introduction et on en a reparlé déjà, ce n'est qu'un grand ensemble. Et donc ce passage que je vais étudier aujourd'hui, qui va de la fin du chapitre 22 au deuxième chapitre du deuxième livre, en réalité, c'est bien un passage qui nous semble cohérent et qui montre bien que la division entre les deux livres, entre les rouleaux, en fait, au moment où les Grecs ont divisé le passage, en tout cas dans la Septante, on a bien une division qui est en quelque sorte un petit peu malheureuse, un peu artificielle, puisque elle ne suit pas une unité dans le texte. Donc c'est bien pour ça on a ce chevauchement. Même si on verra que on va parler aussi d'un nouveau début dans ce passage. Mais pour commencer, j'avais une petite devinette. C'est, à votre avis, quel va être le pitch qui va être proposé sur WhatsApp pour résumer le message? On pourrait avoir conflit, chute et succession, double portion, manteau de poil et char de feu. Peut-être que ça t'inspirera. Ou deux hommes, une course, un idéal. Alors le dernier, c'est celui qui avait été choisi pour les chariots de feu. Alors, certains ont certainement vu ce film qui a été qui date un petit peu, mais qui est connu. Et vous voyez que le sous-titre, en tout cas la façon dont c'est présenté, deux hommes, une course, un idéal, me semblait bien adapté pour finalement résumer le passage qu'on va étudier aujourd'hui et qui nous parle justement d'un chariot de feu. Et donc c'est bien cette citation-là qui avait inspiré le titre du film. Et on verra comment finalement ces deux hommes, Élie et Élisée, avec cette course vers l'annonce aussi en tout cas leur ministère prophétique et cette succession et cet idéal qui certainement ils partagent. Et on verra que ça répond bien finalement à notre étude. Mais peut-être on aura une surprise ce soir avec un autre résumé. Les chariots de feu, c'est aussi, bon, je vais pas relire ce poème. Mais les chariots de feu, ça vient d'un poème de William Blake, bon, c'est en anglais, je vais pas, voilà, on va pas faire une étude ici. Mais si vous vous intéressez à la culture anglaise, hein, ce qui est pas inintéressant, vous verrez qu'il y a dans ce poème qui est devenu un chant qui est très connu aujourd'hui au Royaume-Uni, qui est une sorte d'hymne non officiel du Royaume-Uni. Il y a cette notion de Chariot of Fire qui a inspiré aussi le titre du film et qui est chanté à tue-tête par les Anglais au moins une fois par an au moment des proms. Et c'est bien, voilà, c'est un poème qui est devenu connu grâce à ça. En tout cas, cette citation des chariots de feu ou du chariot de feu, on l'a communément. C'est quelque chose qui vient dans la culture populaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tableaux qui ont été faits d'un passage qu'on va étudier plus en détail aujourd'hui, de l'enlèvement d'Élie. Alors, sur le chariot de feu, en réalité, on verra que finalement, quand on lit précisément, il n'est pas sur le chariot. En fait, il est dans le tourbillon qui est autour du chariot. Bon, souvent, la peinture a un peu résumé ça en montrant Élie directement sur le chariot, enlevé vers le ciel. Et puis, cette transmission aussi du manteau. On verra l'importance de ce manteau, alors qu'il n'est pas arraché par Élisée, hein, comme on peut le croire ici sur cette représentation, mais qui est tombé et que Élisée va ramasser, et ce dont on va parler. Mais peut-être pour remettre ça un peu dans le contexte, on est au moment de la fin du premier livre des rois, à la fin du règne d'Akab. Il y a une succession avec Akasia, donc son fils. Donc c'est le Akab qui était le roi d'Israël, et vous vous souvenez certainement. Donc il a fait une alliance avec le roi de Juda pour essayer de reprendre une ville qui était dans les mains du roi de Syrie. Et pendant la bataille où Akab est descendu discrètement, il s'est déguisé, et puis il y a une flèche qui est tirée un peu au hasard, et finalement Akab meurt au combat, et c'est la fin de son règne. Ce qui montre que Dieu finalement domine sur le pouvoir royal. Et puis on arrive au début du règne donc d'Akasia, son fils, et c'est le début du passage qu'on va étudier aujourd'hui à partir du verset 52, donc du chapitre 22. Donc Akasia commence à régner sur Israël, et c'est une période de crise spirituelle. certainement à cause aussi de cette transmission. Mais on voit tout de suite, c'est quelque chose qui apparaît très clairement dès le début, et on y reviendra, que finalement, Akasia, dès le départ, on nous dit « il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel ». Il y a un problème moral, un problème spirituel, qui est celui du peuple, mais qui est aussi celui de son roi. Et on va pouvoir rentrer un petit peu là-dedans. On voit que finalement, Israël se comporte comme les nations. Et pourtant, c'est certainement là ce qu'on appelle, nous, le scandale de la grâce, hein, c'est que malgré cet égarement d'Israël, eh bien, Dieu continue à parler. Et le ministère prophétique va continuer dans cette période qui est une période difficile, moralement et spirituellement, pour Israël. Alors, pour étudier ce passage, j'ai repris un plan qui me semble assez simple, hein, mais d'abord, regarder la situation de l'homme, de l'humanité, avec l'infidélité, une certaine obstination dans le péché aussi, je viens d'en dire un mot. Après, on verra comment Dieu se comporte, sa sainteté et sa souveraineté au-dessus de ces événements. Et puis, il y aura le passage qu'on étudiera plus en détail, qui est ce passage autour du Jourdain et de la succession entre Élie et Élisée, au chapitre 2 du deuxième livre. Et enfin, je finirai avec quelques mots sur l'espérance, et on verra les parallèles qu'on peut faire et comment Jésus-Christ va plus loin que l'ascension d'Élie, et comment finalement ce texte annonce déjà la gloire du Christ. Alors d'abord, quelques mots sur l'humanité, sur l'homme et la façon dont il se comporte dans ce passage. Et ce qu'on voit dès le départ, je disais là à l'instant, c'est que la réforme du peuple d'Israël et la façon dont Israël se comporte, on voit bien que c'est problématique. Et c'est le passage que je viens de lire, le simple verset de la fin de... Enfin, ou les quelques versets à la fin du livre... du premier livre, hein, Akasia, fils d'Akab, commença de régner sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda, et régna sur Israël 2 ans, et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui fit pécher et Israël. Et il servit Baal, se prosterna devant lui, provoqua la colère de l'Éternel, le Dieu d'Israël, selon tout ce que son père avait fait. Bon, un résumé qui n'est pas à la gloire, bien au contraire, d'Akasia. Et on voit que tout de suite, il est très clair que ce roi, finalement, qui est responsable du culte, qui est responsable aussi de mener le peuple, eh bien, il les mène dans la mauvaise direction. Et lui qui avait le pouvoir de supprimer un sanctuaire ou de le reconstruire, qui pouvait, on l'a vu avec Salomon, hein, qui pouvait conduire le peuple vers l'adoration de Dieu, eh bien lui, il va du mauvais côté. Alors, il y a la mention du péché de ses parents. Alors, bon, on a lu déjà l'histoire de ses parents, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a aussi la mention du péché de Jéroboam. Et ça, c'est une allusion au début du livre des Rois, au chapitre 12. On voit que Jéroboam avait construit des veaux d'or. Il en avait construit à Bethel et à Dan, et il avait finalement refait le péché qu'on voit dans l'Exode, de finalement essayer, sous une forme manipulable, de représenter Dieu et de mettre Dieu au niveau de l'homme et de le domestiquer. Et au lieu d'avoir un Dieu qui est Dieu, eh bien on le fait plus petit qu'il n'est réellement, et on le met là où on a envie qu'il soit, parce qu'on n'a pas la patience peut-être d'aller vers Dieu tel qu'il est. Donc ça, c'est quelque chose qui est reproché à Akasia, en tout cas qui le caractérise dès le départ. Et puis si on tourne la page et qu'on arrive donc au second livre des Rois, on voit dans la suite, hein, que on refuse, et c'est ce que fait Akasia, il refuse la source divine. Il est blessé par une chute au chapitre 1 du deuxième livre, et c'est au tout début du chapitre, hein, il tombe et il se blesse, et puis donc il est malade, et là il envoie des messagers, non pas vers Dieu, mais vers Baal-Zébub. Alors on parle de Baal-Zébub, le dieu d'Écron, et c'est étonnant cette mention. On se dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors non seulement il y avait la question des veaux d'or, Mais là, carrément, il y a une question d'apostasie, c'est-à-dire que c'est plus Dieu qu'on représente sous la forme du veau d'or, c'est carrément on va chercher un autre Dieu. Et ce Baal-Zébub, c'est le Dieu des mouches, littéralement. Et donc, ça nous montre que voilà, on va chercher vers non pas celui qui est capable de sauver, le vrai Dieu, mais vers ce Dieu qui est seigneur des mouches, des choses impures, une idole qui est finalement dérisoire et qui, on le sait, sera incapable de guérir. Et Baal, plus généralement, c'est dans la culture cananéenne, le dieu de la fertilité, le dieu de la pluie, le garant de la vie, etc. C'est celui qui remplace Dieu comme source de vie. Et alors que la Bible nous dit, hein, et c'est ce que Dieu a dit dans le Deutéronome, c'est moi qui fais vivre et mourir. Et bien là, on va chercher ailleurs qu'en Dieu une réponse. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on verra que le prophète, ou même Dieu lui-même, va intervenir par un ange pour dire, mais est-ce que vous allez là-bas parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'est parce que vous ne me voyez pas? Est-ce que je ne suis pas là? Et Akasia, son péché principal, donc, c'est d'avoir oublié l'alliance, d'avoir oublié que Dieu était là en Israël. Et je me disais, ben, finalement, est-ce que nous aussi, nous n'aurions pas quelquefois des Baal-Zébub? Est-ce que quand on est face à une difficulté, est-ce que quand on est face à une crise, je sais pas, de différents, crise qui nous occupe principalement hein, dans notre vie, c'est-à-dire par rapport à notre travail, par rapport à notre santé, par rapport à nos relations, est-ce que notre premier réflexe, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre que Dieu? Est-ce que je vais pas aller me tourner vers Google pour trouver une solution? Est-ce que je vais pas aller voir ChatGPT? Peut-être que voilà, l'intelligence artificielle va pouvoir répondre un peu plus vite à mon problème. Est-ce que c'est mon compte en banque qui va être la solution? Ou est-ce que c'est le Dieu vivant? Et on peut se poser la question, voilà, vers quoi on va tout de suite chercher une solution? Est-ce qu'on va essayer par nous-mêmes et avec nos ressources et d'autres ressources qui ne sont pas Dieu de trouver une solution rapide, une solution facile? Ou est-ce qu'on va se tourner vers Dieu dans la prière? Et peut-être que ça va nous demander un petit peu plus de patience, peut-être que ça va nous exercer un peu plus à attendre, et c'est difficile, mais finalement, est-ce que c'est pas ce que Dieu veut pour nous, puisque c'est lui qui est le Seigneur de la vie? Alors, voilà, Akasia, il s'en va, et il va, voilà, il envoie ses messagers vers Baal-Zébub. Et puis, en plus, on voit bien dans la suite de ce premier chapitre, alors je vais un peu vite parce que, voilà, on va pas pouvoir couvrir tous les détails de tous les chapitres, mais on voit l'arrogance du pouvoir humain. Ils envoient ces messagers, et puis finalement, ils vont passer devant Élie, et il va y avoir ce dialogue entre les chefs des 50. Alors, vous savez, en fait, il envoie des messagers, donc il y a un chef, et puis il a 50 personnes avec lui, et à chaque fois, il passe devant Élie, et il l'interpelle. « Homme de Dieu, le roi dit, descends !» Disons que là, on va vers Dieu, on va vers l'homme de Dieu, celui qui est censé être le représentant de Dieu, son prophète. Mais alors, c'est pas celui qui est requérant qui va se présenter directement. On va le chercher, enfin, on va l'arracher, on va dire bah, « tu viens, toi, c'est toi qui descends ». Et donc, on voit bien que le roi n'est pas soumis à la parole de Dieu. Et en tout cas, c'est pas l'attitude de ces hommes d'être dans une attitude de soumission. Mais au contraire, ils veulent arracher la réponse un peu par la force. Ils pensent que Dieu va pouvoir répondre parce que ils ont des désirs forts et surtout, ils sont armés. Et donc, on va pouvoir faire plier Dieu à ce qu'on veut. Alors, en réalité, la parole nous dit que c'est bien l'inverse. Normalement, que le roi est censé être soumis à la parole de Dieu. Alors voilà un peu la situation du côté humain. Ce roi désobéissant, ce roi qui a oublié l'alliance, qui a oublié qui était Dieu, qui va vers d'autres dieux, puis qui en plus est représenté par ses chefs de 50 qui sont bien arrogants devant Dieu. Alors comment Dieu va réagir? Et on va voir un petit peu les caractères de Dieu dans ce passage. Déjà, ce qu'on voit, c'est que Dieu est jaloux. La question qui est répétée par l'ange et par Élie dans le chapitre 1 du deuxième livre, hein, c'est que, voilà, plusieurs fois, on demande hein, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? On voit bien que Dieu, il sait bien et il se veut exclusif. C'est lui seul qui est digne de confiance. Donc pourquoi aller chercher ailleurs? C'est ça la question qu'il pose. Est-ce que vous allez ailleurs parce que je suis pas là? En d'autres termes, mais regardez, je suis là. Il y a que moi qui peux répondre, en fait. Donc Dieu est très clair sur l'exclusivité qu'il veut dans la relation avec Israël, avec son peuple, et puis finalement avec nous. Et puis c'est un Dieu saint. Un Dieu saint qui va juger, et d'ailleurs le jugement qu'il va passer, ça commence par la vérité. Et ça, j'aime bien dans ce passage, c'est que on est très clair sur le diagnostic qui est posé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le problème. Dès le début, c'est ce que je vous avais lu tout à l'heure, hein, c'est très clairement posé, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Le diagnostic est posé, le problème d'Akasia, c'est pas qu'il est pire que ses parents, on n'est pas en comparaison, c'est pas plus ou moins que quelqu'un d'autre, c'est en fait par rapport à Dieu, son problème c'est qu'il est fidèle à la mauvaise tradition, et il fait ce qui est mauvais selon Dieu. Et donc le jugement de Dieu va commencer par cette évaluation qui est très claire. Alors Dieu, je pense qu'il n'a pas arrêté d'évaluer de cette façon. Et la parole nous parle de la façon dont Dieu parle aussi d'autres situations, y compris de son Église. Et d'ailleurs, dans la première épître de Pierre, Pierre dit qu'aujourd'hui, le jugement commence par la maison de Dieu. Et que c'est d'abord ceux qui connaissent Dieu qui se tiennent devant lui et qui sont jugés, dans quelque sorte, puisque le diagnostic va être aussi posé pour ceux qui sont de la maison de Dieu. Alors nous, qui fréquentons l'Église, qui parlons le langage des chrétiens, est-ce que nous sommes fidèles à la bonne tradition? On va pouvoir parler un peu de la façon dont on peut appliquer un certain nombre de choses de ces passages à l'Église. Et peut-être que ça commence par nous-mêmes. Je disais, est-ce qu'on a nos belles ébubes? Eh bien, finalement, est-ce que nous sommes fidèles aussi à la bonne tradition qui est, c'est-à-dire, est-ce qu'on est fidèle à ce que Dieu veut, ou est-ce qu'on va suivre des idoles qui s'immiscent parfois dans notre culte, qui s'immiscent dans notre cœur et qui nous empêchent d'être réellement présents dans le culte que l'on veut rendre à Dieu? Alors, voilà, posons-nous ces questions. Devant un Dieu qui est saint, est-ce qu'on fait ce qui est bien? Est-ce qu'on est bien à chercher sa présence? Et ce Dieu qui pose le diagnostic ne va pas juger de façon il ne fait pas de surprise. Il avertit. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise son action, c'est-à-dire qu'il annonce ce qu'il va faire. Et quand il y a les trois délégations du premier chapitre qui sont envoyées, et je vous disais, ils sont un peu présomptueux, ils veulent faire descendre Élie, et puis ils lui disent « homme de Dieu ». Homme de Dieu, on pourrait dire, mais alors là, pourquoi ils lui disent ça? Au moins pour les deux premières délégations, on voit bien que c'est une formule de commande, et c'est pas presque un défi, une ironie, puisqu'ils lui disent, voilà, maintenant il faut que tu descendes, il faut que tu viennes, toi, auprès d'Akasia. Et donc, ils n'ont pas, dans la façon dont ils utilisent le titre, de soumission à l'autorité qui, normalement, est derrière ce titre. Et là, en réponse, Élie leur dit, mais si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et ta cinquantaine. Et on voit bien qu'il répond à la mesure de du défi qu'ils lui ont posé, et il avertit, le feu va descendre. Si en gros, vous n'êtes pas, vous persistez dans votre orgueil, Dieu va répondre à cet orgueil, et vous serez dévoré par le feu de l'Éternel. Et c'est en effet ce qui se passe. Le feu descend du ciel. C'est donc dans la suite à chaque réponse en fait que Élie va faire, le feu de Dieu descendit des cieux, le dévora lui et sa cinquantaine. Et on voit bien le parallèle entre ce feu qui descend du ciel pour dévorer ces hommes orgueilleux, avec le feu qui était descendu, vous rappelez, au chapitre 18, au mont Carmel. Et on avait vu comment Élie déjà avait fait descendre, en tout cas Dieu avait répondu à Élie, avait fait descendre le feu, mais ici c'est pas pour valider un sacrifice, c'est pour protéger le prophète et pour sanctionner quelque part l'arrogance du roi. Et dans l'Ancien Testament, le feu Pardon, j'ai oublié de passer. Le feu, c'est souvent le signe de la présence de Dieu. On le voit dans le début de l'Exode avec la façon dont Dieu se révèle à Moïse. C'est aussi le signe de la sainteté de Dieu. On peut penser au passage du Lévitique avec Nadab et Abihu. Et puis, c'est le signe du jugement de Dieu. Et on le voit bien aussi dans le livre des Nombres avec Corée. Et le feu de Dieu descend, voilà, de différentes façons pour différentes circonstances. En tout cas, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que Dieu ne tolère pas, dans ce passage, qu'on instrumentalise son autorité et il ne se laisse pas manipuler par le pouvoir politique. Le roi qui envoie et qui dit descends maintenant, qui par force, par arrogance, peut-être arrogance spirituelle aussi, veut contraindre Dieu, ça ne marche pas. Le jugement, c'est la gloire de Dieu qui ne négocie pas sa sainteté. Et là, on voit bien que finalement, il y a une distance qui est infinie entre la sainteté divine et l'arrogance humaine. Et il n'y a pas de solution autre à ce moment-là, face à cette arrogance, que de voir ce feu descendre comme jugement sur ces hommes arrogants. Et pourtant, Dieu, c'est aussi un Dieu de miséricorde. Et on le voit bien dans la façon dont il traite le troisième homme, la troisième délégation. Et là, l'attitude est complètement différente. Donc c'est à la fin en tout cas la deuxième partie du chapitre 1, il y a un troisième chef de cinquantaine qui monte, donc au verset 13, pardon. Et là, on nous dit qu'il vint et se mit sur ses genoux devant Élie. Et le supplia, et lui dit, homme de Dieu, je te prie que ma vie et les vies de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici le feu est descendu des cieux et a dévoré les deux premiers chefs et les deux premiers chefs de cinquantaine et leur cinquantaine. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, ne le crains pas. Et il se leva et descendit avec lui vers le roi. Là, l'attitude est en contraste avec les deux premiers. Lui, il plie les genoux et il supplie pour sa vie, il supplie pour la vie de ses hommes. Et Dieu finit par lui faire grâce. Et ça montre que la posture finalement change tout. L'humilité change tout. Et ça nous dit que Dieu ne frappe pas par plaisir dans ce passage. On n'est pas face à un Dieu qui serait arbitraire ou qui serait vengeur à mauvais escient. Mais la parole nous dit qu'il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est ce que dit l'épître de Jacques. Et que l'humilité précède la gloire, selon les proverbes. On voit bien là, ici, que c'est bien le cas. L'humilité du troisième serviteur va changer l'attitude à la fois, la réponse de Dieu, et puis l'attitude d'Élie qui finalement descend. Donc souvenons-nous de ces passages qui parfois sont un peu troublants, c'est vrai, parce qu'on n'a plus l'habitude d'être face à ce Dieu qui va faire descendre le feu, mais qui nous montre que, en fait, ce qui compte, c'est l'attitude du troisième, et c'est bien pour ça qu'on finit par cet exemple-là, dans ce passage. Et qui montre que l'humilité va faire changer les choses et que le ministère d'Élie va pouvoir continuer grâce à l'humilité de ce serviteur qui a plié le genou devant Élie et finalement devant Dieu. Donc un Dieu de miséricorde. Et puis on en arrive au chapitre 2, et là je vais plus m'attarder sur ce texte que je vais commencer par lire, en tout cas les 12 premiers versets du chapitre 2 du deuxième livre des Rois. Donc je commence la lecture. Il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils descendirent à Béthel. Et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? Et il dit, je le sais moi aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils s'en vinrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? Et il dit, je le sais moi aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils s'en allèrent, eux deux. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis, à distance. Et eux deux se tinrent auprès du Jourdain. Et Élie prit son manteau et le plia et frappa les eaux. Et elles se divisèrent de ça et de là. Et ils passèrent, eux deux, à sec. Et il arriva, quand ils eurent passé, qu'Élie dit à Élisée, « Demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée dit, « Qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. » Et il dit, « Tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. » Et il arriva, comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu. Et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus de lui et s'en retourna et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux et elles se divisèrent de ça et de là. Et Élisée passa. J'arrête ici la lecture de ce passage, mais voilà, on fera allusion aussi au reste, mais je voulais vraiment me concentrer sur la lecture de ces 14 versets, où on voit un voyage d'Élie et Élisée ensemble, où ils font un itinéraire de Gilgal à Bethel, à Jéricho, puis au Jourdain. Et on voit que c'est un itinéraire qui est hautement symbolique. Et ça, c'est sur quoi je voudrais insister, sur cette géographie spirituelle de ce voyage, ce pèlerinage qu'ils font tous les deux, à travers des lieux qui sont des lieux fondateurs pour Israël. Et ce pèlerinage va permettre aussi de tester la détermination de Élisée, qui est le successeur d'Élie, dans un moment où, comme on l'a vu, le culte est corrompu. Alors je disais, un voyage qui est un voyage spirituel, parce que ces différents lieux évoquent des choses très importantes pour les deux, évidemment, mais aussi pour Israël tout entier. Gilgal, c'est le lieu du renoncement. C'était le premier campement d'Israël, Gilgal. Quand les Israélites ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés là pour commencer, c'est dans le livre de Josué, au chapitre 4. Et puis c'est là que l'opprobre de l'Éternel, on nous dit dans le livre de Josué, a été roulé loin du peuple par la circoncision. C'est là où le peuple a été circoncis au chapitre 5 du livre de Josué. Et donc c'est très symbolique ce lieu, puisque c'est le lieu d'une nouvelle naissance, quelque part. C'est le lieu où on va vraiment séparer Israël et le reste du monde, avec la circoncision et l'entrée, voilà, ce premier campement en Israël. Et donc, finalement, est-ce que Gilgal ne représenterait pas pour nous aussi un point de départ ? Le moment où on va quitter l'Égypte, c'est-à-dire le péché, pour entrer dans la vie avec Dieu. Et là, Élie va tester Élisée. Il lui dit, est-ce que tu veux rester ici ? Reste là. Mais lui, il ne veut pas rester au premier stade, à la première étape. Il ne veut pas rester au premier campement après avoir atteint le salut. Il veut aller plus loin, il veut aller vers la maturité spirituelle. Et donc, il va continuer son chemin. Et nous aussi, je pense qu'on est appelé à ne pas rester à cette première étape, qui est celle de connaître le salut, qui est une étape essentielle. Mais le chemin continue derrière. Il y a encore d'autres choses à voir. Et donc, on va suivre Élisée quelque part, suivre Élie aussi, dans la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est Bethel. Le lieu de la présence. Bethel, c'est la maison de Dieu, littéralement, en hébreu. Et c'est là que Jacob a eu la vision de l'échelle. Vous vous souvenez, hein, l'échelle de Jacob, avec les anges qui montent et qui descendent. Et c'est là qu'il a reçu la promesse d'une présence divine. Et on a vu, c'était ce que je vous disais tout à l'heure avec le péché de Jéroboam, que, ironiquement, ce lieu qui s'appelle Bethel, la maison de Dieu, c'est devenu un centre d'idolâtrie. C'est devenu l'endroit où Jéroboam a installé un veau d'or. Et donc on a corrompu la maison de Dieu. Bethel n'est plus vraiment Bethel. Et le veau d'or a remplacé Dieu. Et pourtant, ça reste symboliquement un lieu d'adoration, un lieu de révélation. C'est pour ça qu'ils y vont. Et aujourd'hui, Bethel, est-ce que ça ne nous rappellerait pas que même les lieux de culte les plus sacrés peuvent devenir des lieux de routine, des lieux d'idolâtrie, si le cœur s'éloigne de Dieu. On va à l'église tous les dimanches, mais voilà, rappelons-nous que notre cœur doit y être, et c'est pas simplement une présence parce que on appelle ça l'église, c'est bien parce que notre cœur est présent dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous y invite, c'est là qu'est réellement la présence de Dieu. Et Élisée, on voit bien qu'il refuse de s'arrêter là, parce que peut-être ça ne lui plaît pas de rester dans la maison de Dieu si elle est devenue vide. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la maison de Dieu en tant que telle, il veut le Dieu de la maison. C'est ça qu'il veut, qu'il cherche. Et nous aussi cherchons le Dieu de la maison, le Bethel, mais c'est surtout elle qui est importante, c'est Dieu qui est important. Alors le chemin continue, et ils vont vers Jéricho. Alors Jéricho, c'est le lieu du combat. Le lieu du combat de la foi, on rappelle les murailles qui tombent, le siège de Jéricho, je ne sais pas où vous rechantez la comptine, mais voilà, le lieu de la première victoire miraculeuse en Canaan, en Josué 6, et c'est une ville qui, pourtant, plus tard, a porté une malédiction aussi. Malédiction pour celui qui rebâtirait Jéricho, on l'a vu au début du livre des Rois, au chapitre 16. Et donc, ils arrivent à Jéricho, ce lieu du combat, le lieu de la victoire par la foi, sur les puissances du monde, quelque part. Et Jéricho, ça évoque nos combats à nous aussi, nos combats spirituels. On peut avoir, à combattre avec Dieu. C'est un thème, je sais, cher à Philippe, et on en parle quelquefois, mais il me semble que c'est important de nous rendre compte que, on a passé une première étape, on avance, on connaît Dieu, et pourtant, il y a des combats. Et Jéricho, sur ce chemin spirituel, est bien là. Des combats spirituels dans nos vies. Et il faut être prêt à affronter ce qui parfois est qualifié de forteresse aussi chez nous, des forteresses qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et on en a chacun, à nous de nous en rendre compte certainement, et si on s'en rend compte, de demander l'aide de Dieu pour abattre les murailles et d'être véritablement dans la présence de Dieu. Et Dieu souhaite faire tomber ces murailles qui sont présentes parfois dans nos vies. Et c'est comme ça, grâce à ce combat avec Dieu, qu'on pourra recevoir, on verra, cette double portion dont il est question un peu plus tard. Et le chemin continue. Et on arrive à la dernière étape, qui est celle du Jourdain. Alors le Jourdain, on en parle beaucoup dans la parole de Dieu. C'est là, semblerait-il, la frontière finale. Le lieu qui sépare la mort et la résurrection. Franchir le Jourdain, c'est quitter le désert pour la terre promise. C'est ce qu'avait fait, quelque part, le peuple quand il est rentré sur la terre d'Israël en tant que tel. C'est le passage aussi pour nous, peut-être, au moment où on se rend compte que on meurt à nous-mêmes, comme dit la parole, pour entrer dans une vie qui est la vie de l'esprit. On franchit le Jourdain pour s'emparer des promesses qui sont dans le royaume. Et donc pour Élisée, traverser le Jourdain avec Élie, ça signifie certainement comprendre que sa vie ne lui appartient plus, elle ne lui appartiendra plus quand il aura relevé le manteau. C'est quelque part aussi un rappel pour nous du baptême, le baptême dans les eaux, et on sait que Jésus lui-même a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Mourir à nos propres projets pour notre propre vie, pour accepter de rentrer dans l'appel de Dieu, ressusciter avec Dieu, rentrer dans cet appel et le suivre là où, dans la direction qu'il nous donne derrière ce Jourdain que l'on aura nous aussi à franchir ou qu'on a franchi au moment de notre baptême. Alors voilà, ce pèlerinage symbolique, spirituellement, et on voit que Élisée va suivre Élie à chaque étape et lui dire « Non, moi je ne m'arrête pas là, je continue le chemin et je vais aller jusqu'au Jourdain et franchir ce Jourdain aussi. » Et chacun de ces lieux qui est traversé, tristement, est devenu un lieu d'idolâtrie sous les rois d'Israël. C'est pour ça qu'il y a peut-être une rupture quand même au moment du passage du premier livre des rois au deuxième livre des rois, parce que voilà, il y a quand même cette transition là entre Élie et Élisée, la fin d'un cycle, le début de quelque chose d'autre. Donc on passe de l'un à l'autre de façon un peu artificielle, mais en même temps, on peut voir quand même un nouveau commencement au début du livre du second livre des rois. Et puis on voit que l'idée, c'est de sortir de ces lieux corrompus pour retourner vers le Jourdain, qui serait le lieu d'une nouvelle création, quelque part, pour Élisée et symboliquement pour nous aussi. Et Élisée va refuser de rester dans le confort, refuser de rester dans la piété religieuse, mais sans lien avec Dieu, ça serait Bethel. Il va tester aussi son courage à Jéricho, et il va continuer le chemin, persévérer jusqu'au bout dans ces lieux géographiques, d'une géographie spirituelle. Et on va voir comment, finalement, à chaque fois qu'il répète, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point, il réaffirme sa fidélité, fidélité inébranlable dans le ministère qui lui est confié. Il demande le courage de suivre l'exemple d'Élie dans son ministère. Alors, il y a un moment qui est important, c'est le passage des eaux, et qui nous rappelle certainement aussi Moïse. Moïse et la mer Rouge, avec la mer qui s'écarte, c'est Exode 14, hein, et le passage vers la liberté. On sort d'Égypte et on va vers la terre promise. En tout cas, c'est le chemin qui est tracé. Ça nous rappelle ça. Et puis, ça nous rappelle, je disais, hein, le Josué 3, avec le moment où Josué, avec le peuple, traverse le Jourdain pour rentrer en Canaan. Et on voit en Josué 3, peut-être un bref rappel, on l'avait étudié il y a quelques années, mais que finalement, à cette époque-là, hein, quand Josué avait franchi le Jourdain, la particularité, c'était que le Jourdain ne s'était ouvert qu'après que les prêtres avaient posé les pieds dans le Jourdain. Et ça nous montre que la foi, là, elle avait précédé la manifestation de la gloire de Dieu. Et peut-être que c'est aussi ça qui nous est rappelé au moment où on refranchit à nouveau ce Jourdain, qu'il y a une action de foi, et que le Jourdain s'ouvre pour relancer finalement la même dynamique que celle qui était celle du peuple quand ils sont rentrés en Canaan. Et en tout cas, par ces allusions, la conclusion que je voulais en tirer, c'est que pour Élie, pour Élisée, et pour nous aussi, ce que ça signifie, c'est que Dieu, c'est toujours le Dieu de l'Exode, c'est toujours le Dieu de la conquête. Et même au milieu d'une nation qui est infidèle à l'époque, eh bien Dieu ouvre un chemin pour ceux qui sont fidèles. Et aujourd'hui, on a le même Dieu. On a ce Dieu qui est le Dieu de l'Exode, le Dieu de la conquête, et qui nous fait aussi traverser notre Jourdain à nous, et qui nous accompagne dans notre ministère, puisqu'il nous confie à chacun un ministère, puisqu'il nous a appelés. Donc, rappelons-nous que ce Dieu que nous louons, ce Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu. Et ça, la parole nous le répète et nous le réaffirme régulièrement. Et puis on en vient à ce moment un peu spécial de la demande qui est faite, la demande difficile, un des mots même d'Élie, cette demande de la double portion. Élisée fait cette prière, dit: j'aimerais une double portion de l'esprit. Alors, si on lit ça comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train de juger le ministère d'Élie, de dire, bon, voilà, j'aimerais faire mieux que toi quelque part? En réalité, ce n'est pas une question de supériorité quantitative. Il ne veut pas deux fois plus que ce qu'avait reçu Élie. Ce qu'Élisée demande, c'est directement en rapport en fait avec l'héritage, et c'est une allusion au Deutéronome, au chapitre 21, où on nous dit que recevoir une double portion, c'était l'héritage du fils aîné. Et donc, ce que fait Élisée là, c'est de demander, non pas à être deux fois plus fort qu'Élie, mais d'être reconnu comme le fils aîné, c'est-à-dire l'héritier légitime, le successeur légitime pour continuer le ministère. C'est ça que ça veut dire. C'est, il veut se mettre dans les pas d'Élie. Et il aimerait être reconnu comme étant à la hauteur du ministère de son prédécesseur, recevoir les ressources spirituelles qui lui seront nécessaires pour continuer ce qu'Élie a fait. Voilà la signification en fait de cette demande de double portion. Il voudrait être le fils spirituel légitime, le continuateur officiel du ministère. On verra que peut-être, voilà, le Seigneur l'a béni réellement par une double portion, mais Mais en tout cas, sa demande, c'est vraiment de mettre ses pas dans ceux d'Élie. Et il récupère son manteau derrière. Un manteau d'Élie, c'est un vêtement de poil qui est le signe de la fonction prophétique. Donc il a ce manteau qui symbolise son ministère. Il y a un habit, qui en l'occurrence, c'est pas l'habit qui fait le moine, mais l'habit qui fait le prophète. Autre titre pour ce soir. L'habit qui fait le prophète, donc ce manteau. Et Élie donc frappe les eaux comme Moïse avait fait avec son bâton. Les eaux s'ouvrent. Donc il a frappé avec le manteau. Et on nous dit que le manteau tombe des épaules d'Élie. Et ça m'évoque le fait que finalement, l'autorité, elle n'appartient pas à Élie, elle n'appartient pas à un homme, mais elle appartient à la fonction. Et ce manteau symbolisait l'autorité d'Élie parce qu'il avait cette fonction de prophète. Et la fonction tombe des épaules d'Élie, puisque c'est la fin de son ministère, il va être enlevé. Et Élisée, derrière, sa responsabilité, ça va être de ramasser ce manteau. Physiquement, il y a cette action, et j'aime beaucoup quand la Bible nous met physiquement au défi de faire quelque chose. Il y a des actes physiques parfois qui, voilà, il pourrait se passer de simplement une succession spirituelle, mais là, physiquement, on voit bien que, voilà, il ramasse le manteau et il va le mettre sur ses épaules. Et ça veut dire que il accepte humainement l'appel divin. C'est pas simplement spirituellement que ça se passe, il le symbolise par cette action. Et c'est un moment de transmission qui est délicat. Les moments de transmission, c'est toujours un peu des moments de crise, des moments difficiles à gérer. On va passer du ministère d'un homme au ministère de quelqu'un d'autre. Bon, c'est un moment ouais, un peu peut-être difficile à gérer, avec des décisions à prendre. Et toujours, je pense aujourd'hui, quand il y a une transition dans l'histoire, par exemple, de l'Église ou d'une Église locale, c'est pas forcément facile à gérer, parce qu'on est habitué à certaines choses, puis tout d'un coup, les choses changent. Notre monde change, notre Église change, et parfois on va changer de leader, on va changer de génération, et bien, voilà, c'est un moment délicat à gérer. Mais la leçon qu'on voit ici, c'est que finalement les hommes de Dieu passent, mais le Dieu des hommes reste. Et donc, voilà, la transition va pouvoir se faire, et on est appelé à ne pas s'attacher simplement à des personnalités, mais s'attacher à l'esprit qui anime ces personnalités. Donc voilà, pensons-y, peut-être parce que ben, ça va être aussi forcément à un moment, c'est toujours l'histoire d'un rassemblement, l'histoire de l'Église, que de vivre ces moments de transition, et donc de rester attaché à l'esprit qui anime ceux qui guident, et non pas rester attaché aux hommes qui incarnent cet esprit et qui le portent pendant un moment, qui portent le ministère qui est confié par Dieu. Et puis, il y a cette histoire de ramasser le manteau. Je disais, il y a cette action physique d'accepter la charge. En réalité, Dieu a déposé un héritage spirituel dans nos vies, à travers ceux qui nous ont précédés, qui ont porté le manteau. Mais on ne va pas continuer à regarder le ciel avec nostalgie vis-à-vis du ministère que ces gens qui nous ont précédés ont porté. Comme Élisée, on est appelé, nous, notre génération, chacun à notre tour, chaque génération à son tour, à ramasser le manteau, la parole, les promesses, et nous aussi, finalement, quelque part, à frapper notre propre Jourdain et à avancer, à porter ce ministère. Et donc, on peut se poser la question, aujourd'hui, quel est le défi qui est devant nous? Quel est le défi pour nous, aujourd'hui, dans l'histoire de l'Église avec un grand E, et puis de notre rassemblement? Et de se dire, ben voilà, Dieu est prêt à agir pour nous, comme il l'a fait pour ceux d'avant, et de continuer à chercher la parole, les promesses, de porter le ministère, et chaque génération, à son tour, se prépare à porter son manteau et à avancer. Et voilà, je pense qu'on peut essayer de retenir ça, en tout cas, pour nous, aujourd'hui. Et puis, je disais, voilà, je voulais quand même finir par quelques parallèles entre la vie d'Élie et la fin de cette vie, en tout cas cet enlèvement, avec la gloire du Christ, puisque la parole nous pointe toujours vers Christ, et en particulier quand il est question d'Élie, on va voir que le lien est quand même facile à faire, puisque la parole le fait elle-même. Élie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractéristiques communes avec Jésus-Christ. Il a traversé le rejet, la persécution, la solitude, on l'a vu, il a été jugé, et puis finalement, vient la gloire à la fin de son ministère. Et déjà, ce que ça nous dit, c'est que les martyrs, ceux qui sont persécutés, dans la parole, ne sont jamais vus comme des perdants. Ce sont des gens qui sont des témoins, finalement, glorifiés. Et je voulais mettre en exergue ce verset du psaume 116, « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints ». Alors, en l'occurrence, là, c'est une mort un peu particulière, parce qu'il n'y a pas vraiment de mort, mais en tout cas, la fin du ministère, et tout ça est précieux aux yeux de l'Éternel, et Dieu voit, on parlait tout à l'heure de l'Église persécutée, je pense que le même verset s'applique à ceux qui vivent jusqu'au bout ce rejet, et qui ne connaîtront peut-être pas un enlèvement comme celui-là, mais précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints. Et eux aussi peuvent représenter à quel point Dieu prend soin et attache une importance même à ceux qui, pourtant, dans leur vie, ont vécu des choses extrêmement difficiles à cause de la foi. Et ce ne sont pas des gens qui sont rejetés pour rien, et leur exemple est, un modèle pour nous, sont véritablement des saints, dans le sens où on peut les imiter aussi dans ce qu'ils vivent et essayer de s'inspirer de la foi qui continue de les porter. Et Élie, c'est aussi quelqu'un qui revient souvent dans l'attente messianique. On va beaucoup parler d'Élie dans la parole de Dieu. Dans l'attente des Juifs, c'est celui qui devait venir restaurer les cœurs, venir préparer la venue du Messie. Et Malachie nous dit « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Élie devait revenir pour annoncer le Messie. Et puis, Jésus-Christ lui-même, Jésus, fait allusion à Élie en disant « Il est déjà venu ». Donc ça veut dire que c'était bien important pour lui. Il y avait cette question du ministère d'Élie. Et vous savez, on compare parfois, on disait « Est-ce que Jean-Baptiste était Élie ? Est-ce que c'était un autre ?» Donc il y a bien cette attente de celui qui vient pour restaurer. Donc Élie a gardé ce rôle important dans toute l'histoire du judaïsme. Et on peut voir des parallèles avec la vie de Jésus. Déjà, je vous disais, le Jourdain, c'est un lieu important, un fleuve important dans le judaïsme. C'est l'endroit où Jésus a été baptisé. Et c'est là que l'Esprit est descendu sur Jésus, tout comme l'Esprit d'Élie est descendu finalement quelque part sur Élisée. Et il y a eu cette transmission à ce moment-là. Et on verra que la transmission de l'Esprit est bien plus grande pour nous. Dans la transfiguration, en Matthieu 17, Élie réapparaît aux côtés de Jésus. C'est merveilleux de voir ça. Et ça montre que toute la prophétie, elle converge bien vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est important. Et Élie vient, quelque part, valider lui-même le ministère de Jésus-Christ au moment de cette transfiguration. Et ce ministère traverse la mort. Et on voit que le ministère de Jésus, il ne s'arrête pas avec le char de feu comme pour Élie, mais lui, Jésus-Christ, va vivre la résurrection. Et donc, on va bien plus loin dans le ministère de Jésus-Christ que cet enlèvement dans le tourbillon au moment du char de feu. Mais y a un parallèle entre les deux, et Élie vient valider ce que Jésus-Christ est en train de faire. Alors l'ascension, je disais, un moment tout à fait particulier, donc dans le tourbillon, qui préfigure l'ascension de Jésus au début du livre des Actes. Mais là où Élie est emporté par une force extérieure, en réalité Jésus lui monte par sa propre puissance. Il n'est pas enlevé comme Élie, Jésus-Christ lui monte par sa propre puissance. Et puis je vais dire un mot de la Pentecôte, mais voilà, je voulais juste dire, oui, le char de feu. Donc tout à l'heure, je vous ai montré ces images en disant, mais en fait, il n'est pas sur le char, il est dans le tourbillon. Mais ce qui compte là, c'est que c'est bien Dieu qui enlève son serviteur, et ça nous montre que Dieu est souverain et que la transcendance de Dieu est capable d'enlever quelqu'un comme il le fait là. Donc ça, c'est l'ascension, qui est importante pour Jésus aussi. Donc on va voir ce moment de où Jésus monte par sa propre puissance, je disais, vers les cieux. Et puis il y a la Pentecôte, qui est un peu sous le même format que ce qui se passe là. Élie laisse son manteau à un seul homme, par contre, Élisée, qui va recevoir ce ministère. Mais nous vivons quelque chose de bien plus grand, puisqu'à la Pentecôte, le Christ glorifié répand son esprit sur toute chair, et non pas sur un seul. Et là, toute l'Église, nous tous, nous avons reçu plus qu'Élisée. Et nous sommes héritiers, nous avons la double portion. Nous avons été élus, comme Élisée avait été choisie pour continuer le ministère d'Élie. Eh bien, nous nous recevons comme enfants de Dieu. C'est bien le terme utilisé dans la parole. Comme enfants de Dieu, comme héritiers, héritiers légitimes, ceux qui reçoivent la double portion, comme le fils premier-né, nous avons le même héritage que celui que Jésus-Christ nous laisse. Et on reçoit cette double portion, et c'est la portion de l'Esprit-Saint qui est répandue sur chacun de nous. Et ça, je me semble, ça nous montre comment ce passage annonce quelque chose de bien plus grand, et comment on peut se réjouir de lire que nous avons l'Esprit de Dieu. Et alors je disais peut-être que la double portion, symboliquement, elle était quand même double, c'est-à-dire que Élisée va faire plus de miracles qu'Élie, mais Jésus-Christ surtout nous dit, hein, vous ferez des œuvres plus grandes dans l'évangile selon Jean. Et quand il nous dit vous ferez des œuvres plus grandes, c'est que nous allons faire deux fois plus, et même plus encore, puisque c'est l'Esprit de Dieu directement qui agit et qui n'est sans limite dans son action. Et voilà, on a ce vrai prophète qui est venu, Jean-Baptiste qui est venu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour préparer la venue du Seigneur, mais celui qui baptise de feu et d'Esprit, c'est bien Jésus-Christ lui-même. Et nous avons reçu l'Esprit. Et puis le passage finit quand même, j'aurais bien aimé finir là, mais je voulais quand même dire un mot de la fin, sur une note un petit peu plus amère peut-être, ou qui nous laisse quand même réfléchir. Et c'est bien qu'on ait découpé le passage comme ça, parce que j'aime bien qu'on finisse d'une façon qui n'est pas totalement conclusive. Et parfois la parole fait ça, hein, vous savez, un exemple parfait, c'est le livre des Lamentations de Jésus, Lamentations de Jérémie, où ça finit un peu bizarrement, on se dit, mais en fait, l'Esprit de Dieu nous dit, mais continue à réfléchir à ça. Et là, dans le découpage, finalement, on a un peu cette fin qui est moins belle que la fin du ministère d'Élie, mais on pourrait dire, ben, voilà, l'Esprit nous conduit aussi à continuer à réfléchir. Et la fin du passage qu'on a lu, enfin, que je n'ai pas lu là, mais qu'on étudie aujourd'hui, c'est le moment où Élisée va revenir vers Jéricho et va voir ses prophètes qui sont là et qui veulent chercher le corps d'Élie. Et Élisée leur dit, non, faut pas chercher, mais pourtant, ils vont y aller quand même. Et ça nous montre quelque part la difficulté humaine à accepter. À accepter là ce qui est un changement important. Changement de mode de présence de Dieu. Je vous ai dit, une transmission, c'est toujours un peu délicat. Et là, c'est difficile d'accepter que Élie n'est plus et que maintenant c'est Élisée. Et ça, peut-être qu'on peut le prendre comme un avertissement. Un avertissement, je disais, contre la nostalgie spirituelle. Et un avertissement contre ce qui nous empêcherait de voir l'œuvre actuelle de l'Esprit. Et se dire, on va chercher finalement la bénédiction qu'il y avait dans les générations précédentes, à l'époque d'Élie. En fait, non. Il dit non. Aujourd'hui, chercher avec les serviteurs d'aujourd'hui, l'Esprit continue à agir. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé avant, mais on continue à chercher pour aujourd'hui. Alors, en conclusion, voilà, rappelons-nous quelques points de ce message, peut-être, et continuons à méditer là-dessus. Est-ce qu'on pourrait identifier nos oracles modernes, nos Baalzébub? Est-ce que c'est Google quand on est angoissé? Ou est-ce que on se tourne vers Dieu? Est-ce qu'on va fléchir le genou devant Dieu, être d'abord dans la prière pour avoir nos réponses? Une persévérance dans le service, à l'exemple d'Élisée, qui est fidèle, qui continue son chemin de Gilgal à Bethel, etc., Jéricho, jusqu'au Jourdain, et qui est fidèle envers Élie et qui va relever le manteau. Qui va chercher la puissance dans la présence de Dieu à chaque fois. Et puis donc voilà, ramassons le manteau de la responsabilité, ne restons pas bloqués dans le passé, une église qui serait nostalgique du feu d'autrefois, mais vivons avec notre temps, notre génération, en gardant ce qui est bon. On ramasse le manteau qui est bien présent, qui est hérité du passé, mais qui est là pour vivre dans le monde actuel au service de nos contemporains, avec nos dons, notre service d'aujourd'hui, et pour annoncer la parole de vérité à laquelle Dieu nous appelle. La grâce est encore pour aujourd'hui, et qu'elle soit avec vous.